La Bible révèle que la fin de toutes choses est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ.
Lors de la dernière présentation, nous avons découvert la signification de la punition des péchés des pères sur leurs enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Et nous avons compris qu'à travers ces lois immuables, Dieu affecte les conséquences de l'iniquité des pères sur leurs enfants, et ce jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Mais le deuxième commandement ne s'arrête pas là. En effet, en Exode chapitre 20 et au verset 6. Exode chapitre 20 et au verset 6, qui constitue la dernière partie que nous n'avons volontairement pas considérée la fois précédente, parce que nous avions beaucoup déjà à faire avec la fin du verset 5. Okay? Mais là, nous allons considérer cette dernière partie. Alors lisons Exode, chapitre 20, et le verset 6. Et il est dit quoi? Alors, si je reprends un peu, le deuxième commandement nous dit quoi? Il nous dit de ne point faire d'image taillée, ni aucune ressemblance, de ne point se prosterner devant elle, et de ne point les servir, car Dieu est un Dieu jaloux qui punit l'iniquité. Ok, là j'ai résumé. Et après il continue, et qui fait miséricorde, donc le Dieu jaloux, est celui qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Si ceux qui transgressent la loi de Dieu infligent à leurs descendants les conséquences de leurs iniquités, il est également vrai que ceux qui obéissent à la loi de Dieu assurent à leur descendance ce que la Bible appelle la miséricorde de Dieu. Le terme qui est traduit au verset 6 d'Exode chapitre 20 par miséricorde vient de l'hébreu hesed. Et ce terme est parfois traduit par faveur ou bonté, et dans d'autres versions par amour inébranlable. Mais la traduction amour loyal est mieux à même d'en dégager le sens. Le terme qui est traduit par aime, dans le sens qu'il est dit, et ceux qui m'aiment, eh bien, vient quant à lui de l'hébreu ahav. Et ce terme exprime le fait d'avoir une grande affection, attention ou loyauté envers quelqu'un. Donc, cela rejoint ce que véhicule, le sens que véhicule le terme hesed. Ainsi, Dieu fait miséricorde ou agit avec un amour loyal envers ceux qui aiment et qui manifestent leur amour et leur loyauté par leur obéissance à ses commandements. Cet amour est la loyauté inébranlable de la relation d'alliance. Dieu n'a jamais cessé et ne cessera jamais d'exercer sa loyauté. C'est pourquoi cette loyauté de Dieu peut être suivie à la trace sur l'échelle du temps. Il y a un homme qui qui s'appelle Raymond. Et cet homme, Raymond, c'est un croyant. C'est un croyant dans le message des trois anges. Et Raymond, il a toujours enseigné à ses enfants, il leur a toujours dit, vous devez suivre, vous devez aimer Dieu et Jésus, vous devez aimer Christ, pour résumer, vous devez aimer Christ plus que les hommes. Vous devez obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, si bien que si l'Église se trompe, vous allez continuer à faire la volonté de Dieu. Et voyez-vous, Raymond a toujours enseigné ça à ses enfants. Et est-ce que vous pensez que ça a été sans conséquence sur ses enfants? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Parce que lorsque ses enfants se sont rendus compte que l'Église adorait un faux Dieu, qu'est-ce que ses enfants ont fait? Ils ont été éduqués, ils ont été préparés. Leur papa, Raymond, les avait déjà préparés. Donc du coup, ils, pour ainsi dire, savaient déjà ce qu'il fallait faire. Ils savaient déjà qu'il fallait qu'ils obéissent. Parce que c'est ce qu'on leur a dit pendant que... C'est ce que leur père leur a dit et leur a toujours montré comme exemple aussi. C'est important. Raymond leur a toujours montré cet exemple-là. Vous allez me dire, mais... Pourquoi tu nous parles de Raymond? C'est pas ton habitude de nous raconter des choses comme ça, mais c'est quoi? C'est parce que, mes amis, c'est parce que Raymond a été loyal envers Dieu et qu'il a toujours manifesté cette loyauté envers Dieu. Et donc, cela a été en bénédiction. Il a pu transmettre ça à ses enfants. Eh bien, c'est par rapport à cela, mes amis, que le pasteur David Sims et moi, nous partons dans l'océan Indien, mes amis. Et nous partons aller encourager, fortifier Raymond et ses enfants. Voyez-vous? Donc, puisque la loyauté, je vous ai partagé ça, c'est pour vous montrer la loyauté, mes amis. Tout comme nous avons vu la fois précédente, que nous avons ce que nous faisons de mal, les péchés que nous commettons vont faire que nos souffrances, que nos enfants vont souffrir de nos iniquités, que ce soit du point de vue physique ou du point de vue moral, et tous les autres aspects, mental, émotionnel, et j'en passe, et bien psychologique, et bien mes amis, voyez-vous, voilà un autre exemple. Lorsque vous enseignez à vos enfants des principes de la Bible, eh bien, lorsque le danger arrive, lorsque le Seigneur va leur parler, ils savent déjà, ils savent déjà ce qu'il faut faire, entre guillemets, parce qu'ils ont reçu l'éducation, mes amis. Voyez-vous? Et donc, ils seront loyaux envers Dieu, parce que c'est ce que leur père a été envers Dieu lui-même. Cette miséricorde s'étend jusqu'à 1000 générations, ce qui est bien plus long que la punition ou l'affectation visant ceux qui le haïssent, la génération de ceux qui le haïssent, laquelle s'étend jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Et maintenant, pour ceux qui ont des Bibles Osterwald, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que dans le verset 6 d'Exode chapitre 20, le terme génération est en italique. OK? Mais Osterwald, en tout cas dans cette version-là, dans la version papier que j'ai, au verset 5, le terme génération n'apparaît pas en italique. Or, il aurait dû apparaître en italique. Et oui. Pourquoi? Lorsque dans la version Osterwald ou dans la version King James, vous avez un terme en italique, c'est que ce terme a été rajouté par le traducteur, de manière à pouvoir fluidifier, mais tout en respectant et tout en disant aux gens qu'ils respectent le texte, et il leur avertit et il leur dit, j'ai rajouté ce mot-là, D'accord? Dans ma traduction. Okay? Mais cela nous permet de voir ce qui a été rajouté. Et des fois, c'est intéressant parce que des fois, le traducteur a pensé bien faire ou il savait que ce n'était pas nécessaire, mais il l'a mis de manière à donner une certaine forme au texte. Mais il reste honnête et il dit « j'ai rajouté ce mot-là ». Okay? Eh bien, c'est le cas. Je vous le dis, le verset 5 et le verset 7, dans ces deux versets-là, le mot « génération » n'apparaît pas dans le texte, mes amis. Il n'apparaît pas, il n'est pas dans le texte original. Cela est un ajout du traducteur. Mais comment, alors, dans ce cas-là, comment peut-on savoir que « génération » est le terme qui peut être proposé ici? Pour cela, nous avons besoin de nous référer à des textes similaires. Et Deutéronome, chapitre 7, verset 9, en est un. Où nous rendons-nous? En Deutéronome, chapitre 7, verset 9. Genèse, Exode, Lévitique, Nombreux, Deutéronome. Deutéronome, chapitre 7, et au verset 9. Et en Deutéronome 7, 9, nous lisons « Reconnais donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu, le Dieu fidèle qui garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. » Dans ce verset, le terme « génération » est bien présent dans le texte. Ce qui nous permet d'accepter, vu qu'il s'agit d'un texte similaire à celui du commandement, ok, c'est vraiment un verset qui est cousin, même frère, du commandement. On voit qu'il est là pour appuyer ce que nous dit la dernière partie du deuxième commandement. Eh bien, cela nous permet d'accepter la proposition du traducteur dans le décalogue où il place « génération ». Mais, mis à part cette information, ce verset de Deutéronome chapitre 7, verset 9, nous apprend que l'Éternel souhaitait qu'Israël reconnaisse qu'il était un Dieu fidèle, qui garde son alliance et sa miséricorde avec ceux qu'il aime et observe ses commandements jusqu'à 1000 générations. La raison d'une telle espérance pour Israël fut exprimée deux chapitres en arrière, en Deutéronome, chapitre 5 et au verset 29. Et en Deutéronome, chapitre 5, au verset 29, nous lisons « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour garder tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux, eux et leurs enfants à jamais. » Voilà, mes amis, voilà la raison de l'espérance de Dieu pour Israël. Notez que du verset 6 à 21 de Deutéronome chapitre 5, Moïse est en train de répéter au peuple les 10 paroles de l'Alliance. Et il continue du verset 24 à 27 en rapportant les échanges qu'il eut avec le peuple. Prêtons maintenant attention aux paroles du peuple, telles que nous les lisons au verset 27. « Approche, toi, dit-il à Moïse, écoute tout ce que Dieu dira l'Éternel notre Dieu. Puis, tu nous rapporteras tout ce que l'Éternel notre Dieu t'aura dit, et nous l'entendrons et nous le ferons. » Et qu'est-ce que l'Éternel pensa de ces paroles? Lisons le verset suivant, verset 28. « Et l'Éternel entendit vos paroles pendant que vous me parliez, et l'Éternel me dit, « J'ai entendu le discours que ce peuple t'a tenu. Ils ont bien dit tout ce qu'ils ont dit. » Après que l'Éternel eut promulgué les 10 paroles de l'Alliance sur le mont Sinaï, tout le peuple d'Israël, mes amis, s'engagea à prêter attention et à mettre en application ce que Dieu leur dirait par Moïse. Bien-aimés, notre bonheur, ainsi que celui de nos enfants, dépend de la condition de notre cœur, de notre état d'esprit. Si nous écoutons la voix du premier ange, d'Apocalypse 14, et que nous mettons en application son message, je puis vous dire que tout ira bien pour nous. Notez qu'au verset 29 de Deutéronome chapitre 5, il ne s'agit pas d'être heureux pour 1000 générations, mais à jamais. En fait, si les enfants d'Israël avaient persévéré dans l'alliance en prenant bien soin d'instruire leurs enfants après eux, eux et leurs enfants après eux auraient été heureux à jamais. Ils auraient été des canaux de bénédiction, des porteurs de bénédiction, comme leur père l'avait été avant eux. Rendons-nous maintenant en Deutéronome chapitre 4, verset 37. Un chapitre en avant, en arrière du moins. Deutéronome chapitre 4 et au verset 37. Et là nous lisons: et parce qu'il, donc il ici c'est Dieu, l'Éternel, et parce qu'il a aimé tes pères, c'est qui t'es, c'est les pères d'Israël, et parce qu'il a aimé tes pères, il a choisi leur postérité après eux, donc les enfants d'Israël, et il t'a retiré d'Égypte par sa présence, par sa grande puissance. Qui sont les pères? Qui sont ces pères que Dieu aima et en vertu desquels il retira les enfants d'Israël du pays d'Égypte? Rendons-nous en Exode, chapitre 3 et au verset 15. Exode, chapitre 3 et au verset 15. Exode, deuxième livre, et au chapitre 3 et au verset 15. Et lisons cela. Exode 3, verset 15. Et en Exode, chapitre 3, verset 15, nous lisons: Dieu dit encore à Moïse, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom éternellement. C'est là ma commémoration dans tous les âges. Lors de la dernière présentation, la semaine dernière, nous avons découvert que pour haïr une personne dans la pensée orientale biblique, il suffit simplement d'aimer cette personne moins qu'une autre personne, ou d'accorder à cette personne une position moins élevée qu'à une autre personne. Et puisque aimer est l'opposé de haïr, il s'ensuit donc qu'aimer une personne peut être manifesté dans le fait d'aimer cette personne plus qu'une autre personne, ou d'accorder à cette personne une position plus élevée qu'à une autre personne. Et tel est le sens du mot aimer dans Deutéronome chapitre 4, verset 37, où il est dit que l'Éternel, le ton Dieu, a aimé tes pères et a choisi leur postérité. Voilà le sens de ce mot-là, dans ce verset. Notamment. Il y en a d'autres aussi qui ont ce sens-là, mais comme c'est ce que nous avons lu ce matin, je vous précise que c'est celui-là. tout comme nous pouvions voir une injustice dans, de la part de Dieu, dans la punition de l'iniquité des pères sur les enfants, nous sommes susceptibles de percevoir une injustice de la part de Dieu dans le fait qu'il n'a aimé qu'Abraham, Isaac et particulièrement Jacob plus qu'Ésaü. Et des textes comme Exode, chapitre 33, verset 19, semblent aller dans ce sens. Je vous invite à vous rendre avec moi en Exode, chapitre 33 et au verset 19, si vous le voulez bien. Exode, chapitre 33, verset 19. Et en Exode 33, verset 19, nous lisons « Et l'Éternel répondit, « Je ferai passer toute ma bonté devant ta face, et je crierai devant toi le nom de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je ferai grâce, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Et l'Éternel, il faut savoir qu'il déclara cela parce que au verset précédent, Moïse lui avait dit, verset 18, et Moïse dit, « Je te prie, fais-moi voir ta gloire. » D'accord? Donc, Moïse a eu le privilège de voir la gloire de l'Éternel. Dieu lui a fait cette faveur. Ok? Dieu a eu compassion de lui, en ce sens. Si vous êtes de ceux qui pensent qu'à ce niveau-là, Dieu est injuste, permettez-moi de vous rappeler que tout comme dans la punition ou l'affectation de l'iniquité, il ne s'agit pas dans cette faveur de Dieu, dans le fait qu'il fasse faveur à certaines personnes, dans le fait qu'il place des personnes plus à un niveau plus élevé que d'autres personnes. Il ne s'agit pas, mes amis, aucunement de destinée éternelle ou de salut personnel, mais simplement d'un droit que Dieu se réserve de manifester certaines faveurs à qui bon lui semble. Et en tant que créature qui de surcroît sont mortelles, nous avons simplement besoin de comprendre les paroles du verset 12 du psaume 84. Je vous invite à vous rendre avec moi dans le livre des psaumes. Et là, nous considérerons le psaume 84 et le verset 12 de ce dernier. Psaume 84 Psaume 84 et le verset 12. Et dans en psaume 84, 12, nous lisons « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Mes amis, comme disait la messagère du Seigneur à ce propos, dans le livre vers Jésus, Dieu est trop sage pour se tromper et trop bon pour refuser un bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Voyez-vous, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. D'après ce que nous dit l'apôtre Paul en 1 Timothée chapitre 2, verset 4. Nous ne devons donc pas craindre d'être hors de portée du salut en vertu de cette miséricorde de Dieu, car c'est justement pour notre salut et celui de toute l'humanité que Dieu exerça la miséricorde envers le roi David. En effet, lorsque nous nous rendons dans le deuxième livre du prophète Samuel, rendons-nous dans le deuxième livre du prophète Samuel et considérons le chapitre 22 de Samuel 22. Le deuxième livre du prophète Samuel au chapitre 22. Le second livre du prophète Samuel, au chapitre 22, et considérons-y le dernier verset de ce chapitre. De Samuel, chapitre 22, et au verset 51. De Samuel, chapitre 22, et au verset 51. C'est lui, donc l'Éternel, qui délivre magnifiquement son roi et qui fait hesed, le même terme hébreu qui se trouve dans le deuxième commandement, et Dieu fait miséricorde, hesed, donc ce terme-là se retrouve ici, et c'est lui qui fait hesed, miséricorde, à son nom, à David et à sa postérité à jamais. Voyez-vous? Ici, David est en train de nous lire, ce verset se trouve dans, est une partie du moins du cantique du roi David, d'accord? Et David était un Israélite issu de la tribu de Juda. Et cette portion du cantique était une prophétie concernant le règne du Messie, lequel serait issu de sa descendance. Et en s'y référant, le père de Jean le Baptiste déclara en Luc, l'évangile de Luc, et c'est là que nous nous rendons à présent. L'évangile selon Luc, chapitre 1. L'évangile selon Luc, chapitre 1, et considérons là les versets, du verset 68 jusqu'au verset 75, d'accord? Pour avoir une vue élargie du contexte du verset qui, justement, nous intéresse ici. L'évangile selon Luc, chapitre 1, du verset 68 jusqu'au verset 75. Et là, Zacharie déclara, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et de ce qu'il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son père. Comme il en avait parlé par la bouche de ses saints prophètes depuis longtemps, de ce qu'il nous a sauvés de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent, pour exercer sa miséricorde. » Ok? Donc ici, c'est du grec. Mes amis, ici, le terme qui est là, qui est « eleos », c'est ce terme-là est le terme grec qui est l'équivalent de « hesed » que l'on trouve dans le deuxième commandement. Okay? Pour exercer sa miséricorde envers nos pères et se souvenir de sa sainte alliance, savoir du serment qu'il avait fait à Abraham, notre père, de nous accorder que, étant délivrés de la main de nos ennemis, nous le servions sans crainte, dans la sainteté et dans la justice, en sa présence, tous les jours de notre vie. Mes amis, êtes-vous esclaves du péché? Si oui, vous êtes alors esclaves de celui qui vous hait. Vous êtes entre les mains de Satan et vous ne pouvez pas servir Dieu dans ces conditions. Mais parce que Dieu exerce sa miséricorde envers Abraham, Isaac, Jacob et David, vous et moi avons un sauveur, un puissant sauveur, prêt à vous délivrer des mains de Satan, afin que vous le serviez sans crainte, dans la sainteté et dans la justice, en sa présence, tous les jours de votre vie. Et tel est le message que l'apôtre Pierre délivra aux Juifs en Actes, chapitre 3. Rendons-nous dans le livre des Actes, au début, au chapitre 3, et considérons-la du verset 22 jusqu'au verset 26. Actes chapitre 3, verset 22 jusqu'au verset 26. Actes chapitre 3, verset 22 jusqu'au verset 26. Car Moïse a dit à nos pères, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Écoutez-le dans tout ce qu'il vous dira. Et toute âme qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminée du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ceux qui ont suivi ont aussi prédit ces jours. Vous êtes les enfants des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est pour vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son Fils Jésus-Christ, l'a envoyé pour vous bénir en retirant chacun de vous de ses iniquités. » Mes amis, voulez-vous accepter la miséricorde de Dieu, la bénédiction que Dieu avait promis à Abraham? Voulez-vous que le Fils de Dieu vous bénisse en vous retirant de vos péchés? Si oui, alors prêtez attention au verset 19 et au verset 20 du même chapitre. Acte 3, verset 19 et 20. Repentez-vous donc et vous convertissez, afin que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et le verset 20, et qu'il vous envoie celui qui a été annoncé auparavant, le Christ Jésus. Pourquoi les Juifs avaient-ils besoin de Jésus à ce point? La réponse se lit du verset 13 jusqu'au verset 18 du même chapitre. Mais permettez-moi de vous indiquer une version plus tranchante que cela. Rendons-nous en Actes chapitre 2 et lisons du verset 38 jusqu'au verset 40. Actes chapitre 2, du verset 38 jusqu'au verset 40. Et là, nous lisons. Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse a été faite à vous et à vos enfants et à tous ceux qui sont éloignés, autant que le Seigneur, notre Dieu, en appellera. Et il les conduisait par plusieurs autres discours et les exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette race perverse. » Voilà, mes amis. Voilà la version beaucoup plus tranchante que celle qui est dans du verset 13 à 18 du chapitre 3. Une autre traduction de la fin du verset 40 serait « Soyez délivrés de cette génération immorale. » Okay? Après avoir mis à mort le Fils de Dieu, les Juifs étaient persuadés qu'ils continueraient à bénéficier de la miséricorde de Dieu, et ce, simplement parce qu'ils étaient les descendants charnels d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de David. Mais cela était sans compter sur la prophétie de Jérémie, celle que nous lisons au chapitre 32 de son livre. Je vous invite à vous rendre avec moi à présent en Jérémie, chapitre 32. Lisez du prophète Jérémie, et au chapitre 32, Et là, nous lisons du verset 38 jusqu'au verset 40. Jérémie, chapitre 32, du verset 38 jusqu'au verset 40. Alors ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Jusque-là, tout va bien. Mais la suite, c'est ce qui montre. C'est ce qui montre pourquoi cela est valide. OK? Et c'est ça que les Juifs n'ont pas voulu. Et je leur donnerai un même cœur et un même chemin, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bien et celui de leurs enfants après eux. Et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me retirerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne se détournent pas de moi. C'est ce que la nation juive a rejeté pour sa majorité. Mais c'est ce que les disciples de Jésus ont accepté. Et c'est pour ça qu'il a pu faire alliance avec eux. Et que l'Église chrétienne a vu le jour, mes amis. C'est parce que Dieu fait miséricorde. C'est parce qu'il exerce un amour loyal que Jésus peut nous donner un même cœur et un même chemin. C'est-à-dire un cœur non partagé et un mode d'action unique, lequel sera celui de l'obéissance. Mes amis, vous et moi vivons à la fin des temps. Et voyez-vous, la miséricorde de Dieu envers Abraham, la bénédiction qu'il lui avait promise à lui ainsi qu'à Isaac, Jacob, Israël et à David, s'étend encore jusqu'à nous aujourd'hui à travers son Fils unique engendré, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voulons-nous, à notre tour, être des hommes et des femmes qui, sous le message du troisième ange, sont des porteurs de cette bénédiction? Si oui, sachez alors que l'observation des commandements de Dieu et de la foi, du témoignage de Jésus-Christ, est l'unique moyen de s'assurer la miséricorde de Dieu, mes amis. Je ne dis pas cela parce que j'ai juste envie de le dire, mais c'est parce que c'est ce qui nous est dit dans le psaume 25, verset 10. Rendons-nous dans le psaume 25. Le psaume 25. Et considérons-y le verset 10. Nous avions déjà considéré le verset 14, okay, du psaume 25, où il est dit que le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et il leur fera connaître son alliance. Mais là, considérons le verset 10. Tous les sentiers de l'Éternel ne sont que Hesed, le terme hébreu que nous trouvons dans le verset 6 d'Exode 20. Miséricorde. Okay? Et ici, Osterwald a choisi de le traduire par bonté. Mais c'est Hesed. Donc, on pourrait dire miséricorde. Tous les sentiers de l'Éternel ne sont que bonté et fidélité pour qui? Pour ceux qui gardent son alliance, c'est-à-dire ses commandements, les dix paroles de l'alliance, et ses témoignages. Voyez-vous? C'est pour cela que je vous disais, mes amis, que lorsque nous gardons les commandements de Dieu et la foi de Jésus, les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus, à ce moment-là, mes amis, nous sommes concernés par les paroles du verset 6 et qui fait miséricorde jusqu'à mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Le véritable amour pour Dieu sera manifesté à travers l'observation de son alliance et de ses témoignages. C'est pourquoi ceux qui aiment véritablement Dieu se soucieront constamment de garder ses commandements, et tout particulièrement ceux qui ont trait à l'adoration. Et puisque Dieu est amour et que ses rapports avec ses créatures sont motivés par l'amour, une fois que Christ, bien-aimé, aura achevé son œuvre en nous, une fois qu'il aura écrit sur les tables de nos cœurs les paroles de l'Alliance qu'il écrivit, que Dieu a écrit sur les tables de pierre sur le mont Sinaï, et que nous serons à ce moment-là devenus une épître vivante, lue et connue de tous, nous n'obéirons plus à Dieu tel un devoir. Nous ne verrons pas cela tel une contrainte. Mais nous obéirons à Dieu parce que nous aurons choisi de lui obéir. Alors, je voudrais clarifier cela pour vous. Parce que cela signifie que cela ne sera pas un devoir bien souvent perçu comme une contrainte. Non, mes amis, parce que lorsque la loi de Dieu est écrite dans votre cœur, vous faites les choses naturellement et l'obéissance sera quelque chose qui sera de nouveau devenu pour nous quelque chose de, pour ainsi dire, naturel. Nous ferons le choix d'obéir à Dieu. Parce que, mes amis, c'est cela en fait. Ceux qui aiment Dieu sont ceux qui lui obéissent. Et lorsque nous arrivons à la fin des temps, comme nous l'avons vu, l'observation de l'alliance de Dieu et le fait de garder ses témoignages, mes amis, tout ce qui nous vient de Jésus, eh bien, à ce moment-là, toute la miséricorde, toutes les bontés de Dieu et sa fidélité nous sont assurées. Et à notre tour, nous pouvons être canal de bénédiction, tout comme l'ont été Abraham, Isaac, Jacob, qui ont observé l'alliance de Dieu. Et par cela, Dieu leur a fait des promesses. Et Dieu s'est servi d'eux, mes amis, pour développer le plan du salut. Voyez-vous? Et si bien qu'aujourd'hui, nous profitons de cela. Nous avons part à ce salut, tout un chacun, abondamment, gratuitement, et ce par Jésus. Donc, Dieu veut que nous soyons aussi des canaux, des porteurs de bénédiction. Alors, puissions-nous répondre oui, et puissions-nous répondre. Comment dirais-je, répondre aux conditions qui sont posées pour que cela puisse être possible pour nous. Obéissons à Dieu. Gardons les commandements de Dieu et la foi de Jésus, ainsi que le témoignage. Et mes amis, tout ira bien pour nous et pour nos enfants après nous. Amen.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org. Et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.